Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Dans les textes sacrés indiens, on nous parle d'ouvrir nos chakras pour nous reconnecter au grand tout, à la nature et à nous-mêmes. Moi, je vous propose un protocole beaucoup plus efficace, avec un vrai feel-good movie, irrésistible, signé Audrey Dana, intitulé « Homme au bord de la crise de nerfs », film qui sort en salle mercredi prochain avec Laurent Stocker, Thierry Lhermitte, François-Xavier de Maison, Ramzi Bedia, Pascal de Molon, Michael Gregorio, Max Bessette de Belgrave, pas facile à prononcer, et la sublime Marina Hans. Audrey Dana et Laurent Stocker, sociétaires de la Comédie Française, sont mes invités. Allez, c'est parti, bonjour à
bonjour.
Tous les deux.
Bonjour, merci pour cet accueil, cette belle présentation.
Alors, chère Audrey Dana, l'idée originale de ce film a germé dans votre tête il y a 6 ans. Le pitch, le voici. 7 hommes de 18 à 70 ans qui ne se connaissent pas du tout, hein, mais sont tous en plein burn-out, se retrouvent embarqués dans un stage de thérapie de groupe en pleine nature sauvage dans le Vercors. Or, le Vercors, vous le connaissez bien car je crois savoir qu'il y a 10 ans de cela déjà, vous alliez dans un lieu étonnant situé dans les contreforts justement du Vercors pour faire des randonnées, du yoga, pour jeûner et pour méditer. Donc, quand on découvre Marina Hans dans le rôle du coach totalement investi hein, pour reconnecter à la nature et à eux-mêmes tous ces mecs un petit peu cassés, on se dit que vous avez écrit en fait à Marina Hans le rôle du chaman que peut-être vous rêvez d'être.
Ou qu'elle est.
Ah, c'est drôle. En fait, ce qui est drôle, c'est que ce film, il s'est écrit tout seul. Il y a des projets comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis partie d'une envie de faire un film sur les hommes. Et puis je me suis dit, contrairement à Sous les jupes des filles, mon premier film où je filmais 11 femmes, j'ai pas envie de les voir chacun dans leur vie. Je veux les voir tous ensemble. Parce que si je les ai tous ensemble, ils vont pas tourner 5, 6, 7 jours, ils vont tourner 30 jours. S'ils tournent 30 jours, je vais pouvoir aller au fond des choses. Ce que j'avais pas tant pu faire avec Sous les jupes des filles. C'est parti de ça. Alors on s'est dit avec ma co-auteure Claire Barré qui
comment
elle,
on les isole tous ensemble
voilà,
mais
on va
hors de la société.
Voilà, c'est ça. Eh bien, on va les mettre en thérapie au milieu de la nature. Donc vous voyez, c'était un prétexte en fait à la base. Maintenant, ma co-auteure s'appelle Claire Barré. Elle a écrit un roman absolument génial qui s'appelle « Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull ?» Et c'est une chamane. Voilà, donc en fait, c'est elle, la chamane.
Je regarde Laurent, et mais oui, effectivement, la copine d'Audrey est une vraie chamane.
Oui, mais moi, je trouve qu'Audrey aussi est une chamane. dans les villes, on rencontre des chamanes. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, pour faire un film comme ça, il faut être un peu chamane.
Oui, parce que vous dites qu'en fait, Audrey, elle a cette faculté rare de capter les ondes de chacun et d'embarquer absolument tout le monde dans ses visions à elle et son énergie positive.
Oui, parce qu'en fait, ce qui a été incroyable sur ce film, c'est que quand on tourne souvent, on a des bonnes ondes avec certains, et puis avec d'autres moins, etc. Mais là, elle a réussi à mettre tout le monde d'accord. Et j'ai rarement vu ça, parce que j'ai quand même tourné quelques-uns des films, j'ai rarement vu à ce point-là une osmose comme ça. Du coup, ce petit groupe-là, ça fait quand même quelques temps qu'on a tourné le film.
Et vous êtes toujours amis.
On est toujours amis et on se voit tous de temps en temps. Ce qui est très 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 rare quand même sur
c'est
les
vrai,
projets.
Ça je sais.
Et ça, moi, ça je ne l'avais jamais vécu. Par
alors, Audrey Dana, ce film, Homme au bord de la crise de nerfs, il démontre que les femmes n'ont le monopole ni de la fragilité, ni de la sensibilité, ni des crises d'angoisse, ni même de cette hystérie souvent filmée par Almodovar. Car en fait, on est tous fait d'un équilibre assez subtil, assez complexe, même s'il n'en a pas trop l'air, entre le masculin et le féminin. Il était donc temps qu'une femme pose un regard bienveillant sur la jante masculine. On va dire qu'on les malmène, les hommes, depuis quelque temps, n'est-ce pas ?
Il était temps que la parole des femmes se libère. Il était temps. On a accepté des choses inacceptables. Il y avait vraiment des comportements qui étaient carrément rentrés dans les mœurs, ce qui n'était plus possible. Donc ce qui se passe en ce moment avec la libération de la parole des femmes est extraordinaire, on ne peut pas le remettre en question.
Mais on est allé vers des regards un peu radicaux.
Mais c'est comme non, à chaque fois qu'on a trop réprimé, quand ça sort en spray, ça sort en cascade, ça sort fort, et donc il y a du très bon et il y a du moins bon. Le moins bon là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de types chouettes, de chic types qui ne savent plus comment s'y prendre avec les femmes, qui ont peur. Et je le sais parce que des amis, et même pas hétérosexuels, homosexuels, n'osent plus me dire qu'ils trouvent ma robe jolie. Genre, je passe devant et je dis bah, Bon, attends, elle est moche ma robe, parce que d'habitude tu me dis « Oh, elle est canon ta robe, j'adore et tout ». Et il y a une peur qui est là, et je vois aussi, pour avoir des fils et un beau-fils, et voir leurs copains, que ça tâtonne, ça marche sur des œufs, on ne sait pas, est-ce que je peux dire, est-ce que je peux faire. Avant de l'embrasser, tu dois lui demander si elle est d'accord. Bon, un moment, c'est vrai que ça peut être sclérosant. Donc en effet, j'avais envie d'un regard de femme, d'un double regard, parce qu'il y a ma co-auteure et moi, d'un double regard de femme sur des hommes. Et
alors, ils sont un peu cassés, mais comme vous venez de le dire, ce sont des chouettes types. Et j'ai appris une chose étonnante, Audrey Dana, pour créer les profils de vos 7 héros masculins. Alors, vous avez opté vraiment pour une méthode de travail étonnante. D'abord, vous avez soumis à plusieurs centaines d'hommes anonymes un questionnaire de personnalité très précis, hein, vraiment sur ce qu'ils aimeraient qu'on dise enfin d'eux dans un film. Et puis vous êtes inspiré des 7 neurohormones connues pour, selon leur dosage, bien sûr, influer sur la personnalité des gens. Donc là, on n'est plus du tout dans la fiction, on est carrément dans Envoyé spécial ou Complément d'enquête, c'est insensé ça. Le chaman s'est amusé avec la science, elle a fait l'apprenti sorcier.
En fait, c'est assez passionnant parce que on a 7 neurohormones, donc par exemple la testostérone qui va rendre les comportements comme ça un petit peu brut, un petit peu, voilà. L'ocytocine, beaucoup d'infirmiers, beaucoup de gens qui sont dans le soin ont cette neurohormone dominante. Oui. L'acétylcholine qui va faire qu'on est très très organisé, etc.
Donc il y a ces 7 dopamine. Voilà.
Ces 7 neurohormones, l'idée pour un être humain dans un équilibre parfait, c'est qu'elles soient toutes balancées.
Équilibrées.
Et ce que nous avons fait avec Claire Barret, c'est qu'on a écrit des personnages qui ont chacun une neurohormone dominante. L'idée étant qu'ensemble, ils forment la roue parfaite et qu'ils puissent se rééquilibrer.
Voilà, on a tous les genres. Alors, le résultat, c'est vraiment une comédie aussi drôle que tendre qui, je l'ai dit au début de cette conversation, ouvre nos chakras et nos consciences. Laurent Stocker, dans cette bande de mecs, tous cassés par la vie, vous êtes sans doute le plus fragile. Tellement sûr d'ailleurs d'être invisible qu'il se présente aux autres à un moment dans une scène en disant « moi j'ai pas d'histoire ». C'est un rôle à l'opposé de ceux qu'on vous donne habituellement.
Ça dépend parce qu'on
parce que vous êtes souvent fragile au cinéma,
oui.
Mais quand même.
Mais on me donne des rôles divers et variés, mais là, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup parce que même moi, je veux dire, dans ma vie de tous les jours, je dis toujours cette phrase de des proches, la seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. Alors j'ai bien aimé quand elle m'a proposé ça parce que non seulement c'est un être fragile, mais c'est un être qui croit qu'il n'a pas sa place dans la société. Et moi, j'aime toujours donner la parole à ceux à qui on ne la donne pas.
Laurent Stocker, ce personnage donc dans « Homme au bord de la crise de nerfs », vous l'appréhendez effectivement d'une manière très intime. On devine le jeu intérieur, on devine les non-dits. Vous jouez comme on vit. Alors, je pose la question au sociétaire de la Comédie Française que vous êtes. On ne joue pas comme on vit à la Comédie Française. On joue à hauteur des textes, souvent des classiques, qu'on fait sonner dans un espace clos, chargé d'histoire. Là, vous étiez en pleine nature. On joue différemment en pleine nature.
Forcément, parce qu'en pleine nature, on a les éléments naturels, justement. On a les plantes, on a les animaux, on a... Le parallèle, il est intéressant parce que moi, je répète toujours dans des salles au sous-sol. Parce que comme je fais beaucoup de théâtre. Et du coup, le fait de jouer avec les autres et dehors, oui, c'était... Moi, ça m'a fait un bien fou, ce film aussi, par rapport à ce que ça me transmettait. Comme sensation et comme émotion aussi, évidemment. Oui.
Thierry Lhermitte déclare que le tournage de Homme au bord de la crise de nerfs est vraiment le plus physique de tous les tournages de sa carrière. Mais entre nous, franchement, vu les scènes à jouer et l'hébergement, je sais qu'on ne peut pas trop en dire, mais on n'était pas très loin de Koh-Lanta quand même.
On n'était pas loin de ce que raconte le film, surtout.
Hein, voilà, c'est ça.
On faisait un stage aussi, parce que le fait d'être enterré, par exemple, pendant une journée dans la terre, même s'il y avait
juste
un espace...
Juste la tête qui dépasse. Comme dans Furio, d'ailleurs.
Comme dans Furio, exactement. D'ailleurs, il
en parle. Ce qui inquiétait beaucoup Ramzi Bedia.
Oui, absolument. Et François-Xavier Demaison, c'est lui qui parle de Furio aussi. Et pour quelqu'un qui est claustrophobe comme je le suis, moi, ça a été une journée très, très, très dure. Mais c'était en même temps une expérience incroyable. Et c'est des exercices de chaman.
Oui, en fait, c'est que des vrais exercices de thérapie.
Le fait d'être enterré.
Oui. C'est pour ressentir sa propre mort, en fait.
Pour ressentir sa propre mort.
Sa vulnérabilité. Et puis aussi, il y a le travail de la terre. La terre, le fait d'être enterré, entouré de terre, d'avoir ces insectes qui viennent, qui se glissent, etc. L'argile prend le mal, dégage les tensions. Donc le fait d'être enterré, c'est aussi une manière de lâcher.
Ça,
de
vous l'avez expérimenté ?
Non, je n'ai pas expérimenté, mais je connais des gens qui l'ont expérimenté. Eux, c'est... et pas 4 minutes, 8-9 heures.
Journée, hein.
Voilà. Oui, et pendant tout le tournage, en fait, pas seulement les acteurs, mais les techniciens qui étaient embarqués dans cette aventure, qui a dû ressembler à une espèce de thérapie de groupe globale, parce que entre se retrouver à vivre dans des yourtes avec la nourriture à base de noix, parfois de boulgour et d'autres concombres, la zone totalement blanche sans portable, les lacs d'eau glacée où il fallait s'immerger.
Mais on avait des combinaisons hein, dans le lac, il était vraiment glacé.
Ouais, c'est vrai.
Je crois que l'eau était à 12. Je crois.
Mais c'était le film dans le film. Vous avez c'est raison ça. De dire ça. C'est vraiment, c'était le film dans le film. On était tous ensemble. On était hors de nos repères, hors de nos habitudes, pour la plupart aussi de leurs repères alimentaires, puisque j'ai décidé de faire de ce film un tournage éco-prod et qui j'avais envie, puisque la parole du film était engagée écologiquement, que le tournage le soit aussi. Et d'ailleurs, du coup, la boîte de production Curiosa Film aujourd'hui se fait labelliser éco-prod sur tous ces films et c'est merveilleux.
C'est
et j'espère
bien.
Que ça va être un nouveau mouvement et que tout le monde va devenir has-been quand il fait un film pas éco-prod. Il est temps. Il est temps. Mais du coup, il y avait vraiment un jour végétalien, une table régie propre avec aucun produit industriel, que des produits qui nourrissent, qui alimentent. Ça a toujours été très important pour moi, mais c'est une des manières qu'on a de participer à la sauvegarde de notre merveilleuse planète.
Alors, Audrey Dana, Laurence Tucker, ni l'un ni l'autre n'avait vécu une enfance parisienne. Pour Audrey, c'était dans la région agricole de la Beauce. Pour Laurence, c'était tout à l'est, dans une petite ville des Vosges. Mais avec, pour l'un, on va dire un cadre et une structure rassurante, je parle de Laurence Tucker, et pour l'autre,
un joyeux bordel,
c'est-à-dire aucun repère, pas de protection ni d'autorité parentale, une liberté que j'imagine parfois angoissante pour une enfant qui grandit dans un univers où les codes n'existent pas. Et là, il s'agit de vous. En fait, c'est réellement ça. Vous avez grandi dans le chaos et vous vous en êtes très très bien sortie, chère Audrey.
C'est gentil. En fait, beaucoup d'enfants sont élevés dans la peur. Fais attention à ci, fais attention à ça, ne va pas là. Bon, moi l'avantage, quand on a vraiment des parents aussi démissionnaires que ceux que j'ai eus, c'est que là où c'était dangereux, c'était chez eux. Ma mère a décidé d'accueillir des enfants de la DAS.
Laurence Tucker éclate de rire.
Ouais. Elle accueillait des enfants de la DAS, mais il y avait aussi tous les encadrants pour s'occuper des enfants de la DAS. Et puis après, il y avait les copains.
C'est-à-dire,
voilà,
dans la grande maison de la Beauce. Et il faut préciser que la mission était noble au départ, comme ça sur le papier, mais ensuite ça s'est avéré assez cauchemardesque. Elle accueillait des adolescents de la DAS qui avaient des problèmes de drogue et de violence, c'est ça ?
Bien sûr, c'était les cas les pires, ceux qu'on arrivait à mettre ni en famille d'accueil, ni en centre social. Donc, quand on ne savait pas où les mettre, on les mettait chez ma mère. Je rigole, mais je rigolais moins quand même quand j'étais petite.
Oui,
parce que j'avais peur tout le temps. J'avais peur parce que je me faisais attaquer. Je me faisais attaquer. Et puis en plus, moi, je représentais celle qui avait un papa, celle qui avait une maman, des bonnes notes à l'école, une envie, parce que
donc
je voulais déjà être
jalousée.
Actrice. Donc il y avait quelque chose, j'étais la bête à abattre.
Vos parents se rendaient compte de cela ou pas du tout?
Mon père n'était pas là. Mon père c'était un journaliste. Mais lui, il était à la capitale et je pense qu'il était dans une forme de déni. Il voulait pas voir.
Quand
grand joueur
maman...
de cartes. Et ma mère, quand il y avait une grosse crise, elle arrivait et elle m'engueulait parce que j'aurais pas dû provoquer cette crise. Donc non, elle ne se rendait pas compte. Mais je suis immensément reconnaissante en fait de cette enfance et de cette adolescence que j'ai eue. D'abord parce que je crois que j'ai moins peur que la moyenne. Voilà, je vois beaucoup de gens qui sont tétanisés, terrorisés
partout. Parce que
vous
avez dû tout affronter au départ.
Quand et vous puis parce qu'on m'a jamais dit, fais attention.
Oui, et quand vous parlez de parents démissionnaires, j'ai appris par exemple qu'en fait, on ne vous faisait pas à manger à la maison. Il fallait vous débrouiller absolument seul. Il y avait la guerre des gangs en permanence chez vous. Jamais on ne s'est occupé de vos devoirs. En fait, on ne vous protégeait de rien.
De rien. Et voire même, parfois, j'ai eu la sensation d'être jetée dans la gueule du loup. Quand je disais, lui, il est dangereux, il faut qu'il s'en aille.
C'est comme si vous étiez délatrice.
Il y avait quelque chose de cet ordre-là, en tout cas inconscient chez ma mère, de comme si elle nous mettait dans une arène pour voir comment on allait s'en sortir avec le loup qui était avec nous.
Vous en avez parlé avec elle plus tard, une fois adulte?
Oui, absolument. Alors elle, évidemment, elle voit pas les choses comme ça, c'est bien normal. On fait tous du mieux qu'on peut. Elle se dit, mais vous aviez le droit d'inviter tous vos copains à la maison, Léo, le problème. Vous aviez les copains tout le temps, il y avait tout le temps la fête.
C'est le petit accent, parce que je précise pour nos amis auditeurs que votre maman, Mary, est américaine.
Voilà, Mary Stuart, elle s'appelle.
Voilà.
Marie Stuart.
Et magnifique.
C'est magnifique. mais pour elle, c'était cool, quoi. On fumait des joints, il y avait des copains qui pouvaient venir. Si je voulais découcher, j'avais le droit de découcher. Où est le problème? Où est le problème?
Eh oui, justement. Bon.
Voilà.
C'est bien ça le problème.
Après non, parce que d'abord, en plus, moi je voulais être actrice, donc j'ai vécu dans une bibliothèque humaine. J'ai vu tous les profils. J'ai compris aussi ce que le monde pouvait faire à ses enfants.
Mais alors, vous dites, je crois savoir que c'est né très tôt cette vocation, mais de quoi l'amour fou pour le théâtre, pour le cinéma? Comment avez-vous capté ça?
L'envie d'évasion. J'étais mieux dans les chaussures d'un autre. C'est parti de ça. Et je crois qu'en fait, il y a quelque chose chez les acteurs de l'ordre du thérapeute. Mais on canalise, en fait. On canalise d'autres personnalités, d'autres choses qu'on va venir communiquer dans le but de faire du bien. C'est quand même ça l'idée. Donc je crois que, petite, je disais je veux être actrice. Et puis plus tard, j'ai compris qu'en fait, je voulais surtout raconter des histoires. Et puis encore un peu plus tard, j'ai compris que je voulais faire du bien, en fait. C'est ça que je veux faire.
Voilà, la chamane qui parle. Laurent Stocker, votre enfance à vous, alors, elle se déroule dans la douceur bucolique et enneigée l'hiver d'un petit village, d'abord de la Meuse, puis d'une petite ville des Vosges. Vous y avez été heureux auprès d'un papa dont la passion était l'archéologie, pendant que vous étiez le plus appliqué en fait, des enfants de cœur, fasciné par le cérémoniel de l'église. C'est-à-dire que la messe, pour vous, enfant, était déjà une représentation théâtrale.
Oui, ma mère voulait absolument que je serve l'église parce qu'elle était très, très religieuse. Et donc, oui, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du théâtre, je dis toujours. Parce qu'il y avait un cérémonial, il y avait un prêtre. Il y avait un prêtre qui arrivait à faire le silence dans une église, qui se levait avec
voilà,
un truc.
Voilà, donc écouter par ses oreilles.
Complètement, je ne comprenais pas ce qui me fascinait. Mais après, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Pas du tout religieusement.
Parce oui,
que
au départ, vous avez cru que vous aviez la foi. Non, en fait, c'était une fascination pour
ouais,
tout
c'était une fascination
le décorum
pour,
et le cérémonial.
C'était une fascination pour la théâtralité de tout ça, quoi. Et je suis toujours fasciné par la théâtralité des choses, pas forcément religieuses, mais au restaurant ou les choses qui sont un peu
traitées avec sacré.
Voilà.
Avec
par exemple,
le sacré.
Sommelier, vous dites que...
Ah oui, ça, j'aurais pu être sommelier, oui.
Parce que justement...
Parce qu'en fait, la seule chose qui nous relie dans nos villes à la terre, c'est la vigne, quelque part. Et j'ai fait 2 ans d'œnologie, d'ailleurs, parce
ah
que
oui.
ça, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que j'ai envie de faire aussi.
Alors, il n'y avait pas de théâtre, Laurent Stocker, sur les
non.
terres de votre enfance.
Passe...
Une fois seulement, paraît-il, vous êtes allé voir une représentation du mariage du Figaro dans un théâtre en bois dont le fond de scène ouvre sur une forêt de sapins oui.
à Bussan,
en pleine montagne.
Qui existe toujours, c'est un théâtre, c'est le Théâtre du Peuple qui a été fondé par Maurice Potcher.
Oui.
Et c'est un théâtre où le cahier des charges, à la fin du spectacle, doit s'ouvrir sur la forêt, en fait.
Non,
donc si vous voyez Shakespeare, si vous voyez Molière, si vous voyez n'importe quoi, vous allez, c'est toujours l'été, c'est en juillet,
oui.
Il y a un spectacle, et à un moment... C'est obligatoire d'ouvrir ces deux portes magnifiques. Et ces deux portes, vous êtes dans une salle de spectacle et tout à coup, ça s'ouvre et vous avez la forêt de pins.
C'est le théâtre de mes rêves.
Il faut que tu ailles là-bas.
C'est dans les montagnes. J'ai vu que c'est
dans les montagnes.
Genre 700, 800 mètres d'altitude.
Oui, c'est ça. C'est pas très loin du ballon d'Alsace. Donc, c'est pas. Oui, c'est très haut.
Donc, ça a été l'éblouissement lorsque vous avez assisté à cette représentation.
Mais j'étais déjà dans une famille un peu théâtrale. J'avais un grand-père d'origine italienne qui était un comédien, en fait, sans le savoir, qui faisait des balles, il faisait rire tout le monde, il faisait... Il était sur scène, mais en permanence. C'était même un peu trop fatigant, parfois, parce qu'il était il prenait énormément de place, et dès qu'il arrivait, tout le monde se taisait, il écoutait, il sortait une guitare, une clarinette, et voilà. Et donc, il faisait du one-man show, sans le savoir.
Donc, alors, Laurent Stocker, est-ce que vos parents ont été surpris quand vous leur avez annoncé, donc à l'âge de 16 ans, que vous vouliez aller à Paris pour passer un bac théâtre?
Non, ils n'étaient pas surpris du tout, parce que depuis l'âge de 7 ans, je disais que je voulais être comédien. Comme il n'y avait pas de comédien autour de moi, ni dans ma famille, et tout le monde me disait, mais C'est étrange, cette vocation jeune de vouloir faire ça. Et j'ai jamais su d'où ça venait.
Vous êtes donc arrivé au lycée Lamartine. À 16 ans, c'est très très jeune. Vous étiez pensionnaire. Enfin, comment s'est organisée votre vie?
Oui, j'avais loué une chambre chez l'habitant dans le 11e arrondissement à Saint-Ambroise. Et puis j'allais au lycée Lamartine à Paris. Oui.
Donc vous étiez parfaitement mineur.
J'étais mineur.
Et vous étiez déjà totalement autonome.
Autonome et seul dans une ville où je ne connaissais absolument personne.
Voilà.
Donc, tu es arrivé à 16 ans, et puis après,
Et après, vous n'avez pas perdu de temps.
On développe des amitiés, et puis découvrir Paris à 16 ans, c'est extraordinaire.
Sans les parents. Une fois le bac en poche, donc avant d'entrer au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, où vous aurez des maîtres comme Daniel Mesguich ou Madeleine Marion, vous avez signé à 18 ans seulement votre premier contrat. En fait, vous n'avez jamais galéré, vous avez tout de suite été demandé.
Non, j'ai eu de la chance, j'ai commencé avec une troupe de marionnettistes. J'ai parcouru le monde avec eux.
Non.
Oui, j'ai été en Finlande, j'ai été un peu partout, j'ai été
Mais alors,
au Japon.
Attendez, vous jouiez en fait vocalement les personnages, vous n'étiez pas marionnettiste vous-même, ça se passait comment?
En fait, c'était la compagnie Dominique Houdard, Jeanne Euclin, que j'avais rencontrée dans les Vosges quand j'étais jeune. Ils m'ont appris à manipuler les marionnettes, à faire du bunraku japonais, à faire de la marionnette again, de la marionnette habitable, c'est-à-dire j'étais dans des marionnettes. C'était des personnages qui s'appelaient les paddocks, qui étaient des personnages qui décalaient la ville. C'est des personnages qui embrassent les arbres, c'est des personnages qui ne connaissent pas ce qu'est un passage piéton. C'est comme ça qu'on appréhendait la ville comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais effectivement 18 ans, mais j'étais au conservatoire en même temps. Donc j'avais des congés de temps en temps et je partais avec eux et je revenais après.
Alors on continue d'agiter les souvenirs, si vous voulez bien. Audrey Dana, on évoquait tout à l'heure donc cette enfance chaotique qui fut la vôtre, mais qui n'empêcha pas votre papa, qui était journaliste au Nouvel Obs, de rêver pour vous, bien qu'il fût plutôt un père absent, on va dire un peu inconséquent, il rêvait pour vous d'études brillantes, ce qui n'était pas du tout dans vos projets, puisque vous êtes entré au Conservatoire d'Orléans, et vous avez envoyé, à cette époque-là, à votre père une longue lettre dans laquelle vous lui avez signifié que vous seriez actrice et rien d'autre. Lettre à laquelle, il a répondu. Il l'a renvoyée, corrigée de façon curieuse.
Ouais, c'était... En fait, mon père me soutenait beaucoup dans mes études. J'ai même dû fuguer de chez ma mère pour aller réviser mon bac parce que je ne pouvais pas réviser correctement mon bac étant dans cette grande maison avec tous ces gens. Alors, j'ai fugué avec le soutien de mon père qui a décidé de me donner 1000 francs par mois pour pouvoir partir de la maison et que j'ai de quoi manger pour passer mon bac.
Et donc, bon, il a été présent alors à cette époque-là.
Là, il a été présent et j'avais de très très bonnes notes à l'école. J'étais la première de ma classe, donc il était très fier dès que j'avais des bonnes notes. Je l'appelais, je lui disais « Papa, j'ai telle bonne note, telle bonne note, telle bonne note ». Ça créait un lien avec lui, c'était super.
Donc, il s'est dit « Elle va faire Normale Sup, elle va faire HEC ».
Mais nous, on avait passé un pacte quand j'avais 6 ans et le pacte à 6 ans, c'était et ton bac, et après tu pourrais être actrice. Donc moi, j'étais juste en train de répondre à ce pacte.
Oui, mais 6 ans, c'était 11 ans
ouais,
plus tôt.
Il pensait que j'avais oublié, peut-être. Et donc, le jour où je l'ai appelé pour lui dire que j'avais le bac, il était très, très heureux. Et puis, il y avait ma petite sœur à côté de lui. Et moi, je pleurais. Et puis, il dit à ma sœur, c'est ta sœur qui pleure parce qu'elle a le bac. Et je dis, non, papa, je pleure parce que c'est fini, parce que c'est terminé. Pour moi, c'était un supplice d'être assise à l'école, de ne pas pouvoir me servir de ce corps, d'apprendre des informations qui ne m'intéressaient pas. C'était un supplice. Alors oui, j'étais première de ma classe, mais c'était juste une voie de sortie pour
moi. Donc vous avez dit, je vais pouvoir enfin
c'est
prendre
la liberté.
En main ma vie.
Et à partir de ce moment-là, il a arrêté de me verser les 1000 francs par mois, donc ça a duré un mois, en fait, c'est 1000 francs par mois. Et en effet, je lui écris une lettre en lui disant « Papa, je ne comprends pas, je suis toute seule, maintenant j'étais dans ma vie, j'ai mon bac en poche, tu n'es plus là, tu ne réponds plus au téléphone, tu ne m'envoies plus l'argent, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit ?» Et il m'a répondu, il m'a renvoyé en effet ma lettre, corrigée, pas de réponse, corrigée, donc toutes les fautes d'orthographe, etc. Et il a terminé avec un petit PS qui disait « Et si l'art de vivre était l'art d'écrire, médite cela, ma fille. » Voilà. Ce à quoi je lui ai répondu une lettre tout à fait, en français, tout à fait parfait, extrêmement bien formulée, en lui disant que je n'attendais pas une réponse d'un professeur, mais la réponse d'un père, qui n'avait décidément pas été beaucoup présent dans ma vie. Et j'ai terminé en lui disant « PS, et si l'art de vivre était celui d'élever ses enfants, mais dites cela. » Donc ça a été un peu une dispute par lettre manuscrite. Ça n'arrive plus aujourd'hui.
Oui,
ça a duré 2 ans. Et puis on s'est retrouvés et les retrouvailles ont été merveilleuses. Ouais. Je me suis émancipée en fait de cet amour que j'avais pour lui et je lui ai dit maintenant quand je suis revenue dans sa vie, je lui ai dit faut que tu acceptes que si je te donne un texte de Racine et je te mets sur un plateau, il y a beaucoup de chances que tu aies l'air bête. Moi, si tu me donnes un crayon et des feuilles et que tu me demandes d'écrire un texte, il y a beaucoup de chances que j'ai l'air bête. Accepte notre différence, accepte nos différences et laisse-moi vivre ma vie, sinon je continuerai à ne plus te voir.
Et vous avez bien fait de choisir cette voie, Audrey Dana, puisque vous êtes sortie avec un premier prix du Conservatoire d'Orléans, où vous avez suivi les cours de Jean-Claude Cotillard, le père de Marion Cotillard.
Oui, absolument. J'ai même pratiqué sa maman. Voilà, c'est vrai, qui donnait des cours
puisque,
aussi là-bas.
Voilà, tous deux sont professeurs.
Mais bon, Jean-Claude Cotillard, c'est vraiment, il en a fait son métier toute sa vie. Son métier, c'est un prof de clown, d'expression corporelle. Et il m'a énormément appris, énormément donné. C'est d'abord un amoureux de son métier. Et puis, il avait un sens de la transmission. Et puis, de ramener au corps, au corps, au corps, au corps. Je me rappelle des premiers cours, on me disait « respire avec ton ventre ». Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et c'est vraiment lui qui m'a appris tout ce qu'on pouvait apprendre en cours, parce que je pense qu'on apprend surtout beaucoup quand on est sur scène.
Mais alors, pourquoi vous retrouve-t-on ensuite à New York, où vous allez passer 2 ans en jouant avec une troupe de théâtre ultra underground, le Cosmic Joke Collectif? Pourquoi New York et...
Alors, je vous le demande, pourquoi New York? Et ça, c'est complètement fou. En fait, je suis censée partir, je décide de partir parce que j'ai 2 mois d'été et qu'il n'y a pas de conservatoire et que je suis perdue. Quand je ne suis pas en train d'interpréter un rôle, je ne sais pas trop à quoi sert la vie. Et donc, je pars à New York en me disant, écoute, tu vas perfectionner ton anglais, je suis moitié américaine, tu vas perfectionner ton anglais, ma sœur était là-bas, tu vas retrouver ta sœur, tu vas gagner des petits sous pour... J'allais t'engager comme secrétaire, j'ai tenu 2 secondes et demie. Et puis, il s'est passé quelque chose de mystique. Il s'est passé quelque chose de mystique, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à New York, et pourtant c'est la deuxième fois que j'y allais, j'ai appris que je n'allais pas repartir, je vous assure. C'est comme, c'est pas une voix, parce que là vraiment ça y est, on va me jeter à Sainte-Anne, mais une sensation écrasante que je n'allais pas repartir et je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette sensation. J'étais dans une grande école, je venais de décrocher un contrat au théâtre du Ranelagh, j'avais un agent artistique, tout était en train de se mettre en place. Et là, d'un seul coup, si je restais à New York,
mais
où je n'étais pas une actrice...
Votre agent a dû penser que vous étiez en train de fuir, carrément.
Personne n'a compris. Et moi-même, le jour où je l'ai annoncé à mon entourage que je n'allais pas rentrer, je me l'annonçais à moi-même. Bon, je comprends aujourd'hui pourquoi je suis restée à New York. D'abord, j'ai fait mon premier enfant là-bas. Et puis, je pense que la metteur en scène est née là-bas. Parce que j'étais tellement émerveillée par le talent des artistes qui m'entouraient.
D'ailleurs, c'est vous qui avez fondé
le Cosmic Joke Collectif.
Voilà,
que j'ai commencé à mettre en scène, en fait. J'ai commencé à mettre en scène ces artistes merveilleux.
D'accord. Alors, Audrey Dana, là où votre histoire devient furieusement romanesque, c'est que le film qui va vous révéler relève d'un stratagème que personne n'avait encore osé mettre en place dans le monde du cinéma, alors que, par exemple, Romain Gary l'avait fait en littérature avec La vie devant soi, qu'il avait signé Émile Ajar. Je m'explique. Claude Lelouch vous repère, vous jouiez sur une scène de théâtre, il vous propose d'être l'actrice principale de son nouveau film, mais vous devez mentir à tout le monde, à vos amis, à votre famille, sur le nom bien sûr du réalisateur.
Hervé Picard.
Voilà.
Je tournais avec un mec qui s'appelait Hervé Picard.
Voilà, il s'était rebaptisé Hervé Picard et tout ça c'était bien évidemment pour tromper les critiques malveillants à son encontre. Sauf que, comme le film est vraiment très très bon, c'était Roman de Gare, il est sélectionné pour le Festival de Cannes et alors là, le secret implose.
Exactement, c'était assez fou. D'abord, c'est un premier film dirigé par l'incroyable Claude Lelouch, à qui je dois beaucoup, beaucoup en tant qu'actrice, mais aussi beaucoup en tant que metteur en scène, puisque c'est mon metteur en scène préféré dans sa direction d'acteur. Et donc, en effet, à Cannes, je me souviens, donc on me dit on est sélectionné à Cannes, ça y est, on va révéler que c'est Claude Lelouch. Ok, super, je me souviendrai toute ma vie d'arriver au Festival de Cannes pour la première fois de ma vie. Donc. Et puis, à la fin de la projection, les gens se lèvent pour partir, pour moi. Ils veulent partir. Et en fait, c'était une standing ovation.
Qui a duré 20 minutes.
Ouais.
J'ai revu
les
images.
Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi ils ne partaient pas. Ils ne voient pas les portes derrière et tout. Pourquoi les gens sont debout. Je te jure, je n'arrivais pas à percuter. Et je suis passée d'une actrice complètement de l'ombre, où même le plus petit des rôles, j'étais pas capable de le décrocher.
À celle qui soudain était ovationnée au Festival de Cannes.
Voilà, ça a été vraiment comme dans les films, en fait.
Voilà. Laurence Stocker, c'est en fait le rêve des autres qui vous façonne comme acteur.
Ah oui, toujours. Moi, je rêve pas à des rôles particuliers. Je suis un comédien qui se laisse porter par les autres, par les envies des autres. quand j'ai rencontré Claude Berry pour faire le film Ensemble, c'est tout, moi, je n'avais pas beaucoup tourné avant.
Oui, qui vous a vraiment révélé aux yeux du
Claude,
grand public.
Ça a été d'une grande, grande force pour moi. Il était producteur en même temps. Donc, quand j'ai fait le casting avec lui, il m'a dit... Il m'a rappelé, il m'a dit en fait, j'aimerais que ce soit toi qui joues le rôle de Philibert Marquet de la Durbelière dans ce film qui s'appelle Ensemble, c'est tout. Et je lui ai dit oui, mais j'arrive souvent vers la fin, mais souvent le producteur met quelqu'un d'autre. Et il me dit, mais non, mais moi le producteur, c'est moi. Et donc ça, c'était super parce que là, du coup, puisqu'il était son propre producteur, j'ai fait le film avec lui. Voilà.
Alors, Laurent Stocker, vous occupez à la Comédie Française, la loge qui offre la vue la plus majestueuse sur les jardins du Palais Royal.
Oui, j'ai de la chance.
Ah, voilà. pourtant, la Comédie Française, très jeune, j'ai appris que vous l'aviez d'abord refusée. À l'époque, pour les comédiens de votre génération, c'était l'endroit où on n'avait pas franchement envie de terminer, c'est ça ?
Oui, c'était surtout... l'endroit où on n'avait pas envie de terminer, l'endroit où on n'avait pas envie d'aller. Quand j'étais dans les années 90 au conservatoire... La Comédie Française, il y avait un côté très...
Poussiéreux.
Poussiéreux, très « oh là là, qu'est-ce que c'est que ce théâtre ?»
Qu'est-ce que ça a déménagé depuis
hein. et c'est vrai que c'est plus du tout cette troupe que j'avais connue où, quand j'étais adolescent. Quoi.
Voilà. Ouais.
Je suis allé voir un ou deux spectacles quand je suis arrivé à Paris et ça ne me fascinait pas du tout, la Comédie Française. Moi, ce n'était pas du tout
pas
un rêve
mais
pour
alors,
moi.
Il faut préciser quand même que cette première proposition qu'on vous a faite d'entrer à la Comédie Française, ça a été à la suite d'un challenge aussi fou qu'inattendu sur une scène à Rio. Il faut absolument nous raconter ça. Bah, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé.
Bah, c'était en fait c'est des concours de circonstances qui sont des synchronicités étonnantes. C'est-à-dire que j'étais avec ma compagne qui faisait un petit rôle, parce qu'elle était au conservatoire à l'époque, elle faisait un petit rôle dans les Fourberies de Scapin,
ouais,
qui avait monté Jean-Louis Benoît. Je suis arrivé à Rio avec la troupe que je ne connaissais absolument pas.
Mais vous étiez en vacances.
Moi, j'étais en vacances. J'étais parti là-bas pour... voilà. Et puis, ça faisait 2 jours qu'on était arrivés. Et il y a un acteur qui a eu un gros problème médical. Il a été hospitalisé en urgence. Le metteur en scène, je le connaissais.
Ouais.
Voilà. L'administrateur de l'époque, Jean-Pierre Miquel, que je ne connaissais pas, m'avait présenté à ce metteur en scène 6 mois avant. Voilà. Et tout à coup, je me retrouve là-bas. Il y a un acteur qui tombe malade et on me dit... Le temps qu'on fasse venir un acteur de la Comédie Française, c'est pas possible. Toi, t'es acteur, tu vas jouer.
Oui, mais d'accord, mais attendez, dans l'urgence, le rôle d'Octave, vous le connaissiez ?
Je connaissais pas, non, pas du tout.
Alors, vous avez eu combien de temps pour l'apprendre ?
J'ai eu 24 heures. Wow. 48
non.
heures. Oui, j'ai appris.
Comme dans les cauchemars.
Comme dans les cauchemars.
Comme dans les cauchemars. Dans la formule.
Et alors, j'étais donc avec ma compagne, et la première phrase d'Octave, c'est « Fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux ». Tu m'étonnes.
Oui, oui.
Dures extrémités où je me vois réduit.
Ouais.
C'est le premier vers d'Octave. Et effectivement, je me suis retrouvé. Il se trouve que je rentrais dans le costume de l'acteur qui était lui hospitalisé.
Ouais.
Je me suis retrouvé le premier soir avec la brochure parce qu'il s'était écoulé 12 heures.
Mais oui.
Donc je me suis retrouvé avec la brochure devant 1500 personnes à Rio. Le lendemain, encore un peu avec la brochure. Et puis, 2 jours après, on est parti à San Paolo.
Voilà.
Et
là on jetait
appris,
la brochure. Et voilà.
Le texte oui, en 48 heures. Vraiment, c'est les cauchemars des acteurs. On se retrouve devant des salles et on ne connaît pas le texte.
Mais vous avez été si prodigieux qu'on vous a carrément proposé à la suite de ça d'entrer au français. Alors d'abord, vous refusez. Et en 2001, Marcel Bozonnet, qui vous avez connu comme élève au conservatoire, n'est-ce pas, est nommé administrateur général de la Comédie Française. Et là, vous dites oui. Alors, Laurent Stocker, la Comédie Française, c'est en moyenne 900 levées de rideaux à assurer pendant l'année. 900 spectacles. Et vous êtes 58 comédiens. C'est dire si le rythme des répétitions et des représentations est hallucinant. Comment faites-vous pour glisser au milieu de tout ça du cinéma ?
Je glisse le cinéma dans les interstices quand je ne fais pas trop de théâtre. Alors c'est vrai que du coup, il y a toujours des périodes. Par exemple, le mois d'août, c'est des vacances.
Oui, d'accord. Mais alors, on évacue le mois d'août. Vous dormez 3h30 par nuit.
Non, je dors quand même 5-6 heures par nuit déjà. Et puis, moi, j'aime bien tourner la journée et jouer le soir, contrairement à certains. Bizarrement, moi, j'aime bien cette énergie-là.
Laurent Stocker, il n'y a aucune coquetterie chez vous ? Quand même, acteur césarisé et sociétaire de la Comédie Française. Il n'y a aucune coquetterie quand vous confiez « J'adore qu'on ne me reconnaisse pas ».
Ah oui, j'adore ça. J'aime bien me déguiser parce que ça a à voir avec l'enfance.
Totalement.
Le jeu d'acteur. Donc on va dans le grenier, on choisit une malle,
on joue
à être un autre Et puis on est tellement l'autre que
eh ben voilà, on ne connaît pas. C'est comme
donc,
si on avait gommé
en fait. Il y a
des
films
fait,
où les gens me disent mais vous
étiez
dans ce film
originel.
Ouais. Ça j'aime bien.
j'ai retrouvé Laurent Stocker un article paru en 2015 dans lequel vous affirmiez jamais je ne deviendrai metteur en scène. Donc cette carrière parallèle de metteur en scène et de cinéaste de votre ami Bruno Podalydès par exemple, eh ben cette carrière-là elle vous tente absolument pas.
Non, enfin, ce qui me tenterait, c'est de quand même, en vieillissant, je me dis, je monterais bien un fait d'eau quand même.
Ça serait pas mal
parce que j'aime bien cette dynamique-là, ce côté horloge suisse comme ça, où tout va à 100 à l'heure. Et quelquefois, quand je le vois monter, je suis déçu parce que je trouve que ça va
savez,
pas assez vite. Que...
Vous savez où ça pêche. Vous vous dites, ah, moi, j'aurais
c'est,
pris
c'est
cette option-là.
C'est pas que je sais où ça pêche, mais quand j'entends les gens qui rient pas et que je me dis, c'est très drôle, c'est parce que la situation est pas assez vite jouée, parce que les gens se prennent pas assez la porte en pleine tête et que, voilà, c'est très féroce, c'est très cruel, Fedo. Alors ça, peut-être, j'aimerais bien un jour monter Fedo.
Cher Laurent, vous étiez impressionné de voir Audrey à la fois en capitaine de vaisseau, en chef scout, en éclaireur, en gourou, en chamane, bref, en chef d'orchestre, présente à tous les postes avec une réponse pour chaque question sur le tournage, justement, de Homme au bord de la crise de nerfs.
Oui, c'est fascinant parce qu'elle a une capacité, Audrey, qui est incroyable, d'une énergie que peu de gens ont, en fait. Et moi, je me souviens très bien, le premier jour où je l'ai rencontrée, c'était à Montmartre. Je me souviens très, très bien du premier rendez-vous dans un café où on a discuté, finalement, pas beaucoup du film, mais de plein d'autres choses. Et je me suis dit, ah, tiens, moi qui aime les gens qui sont énergiques, j'aimerais bien travailler avec quelqu'un qui a cette pêche-là et cette envie, cette gourmandise du monde, encore une fois. Moi, ça me fascine, ça. Et moi, j'adore ça, bien sûr.
Audrey Dana, votre trajectoire de réalisatrice, elle est sacrément étonnante. Vous êtes passée à la réalisation en 2013 en réunissant, pour votre tout premier film intitulé « Sous les jupes des filles », le casting de stars féminines le plus flamboyant de la décennie. Je voudrais savoir comment, lorsqu'on n'a jamais réalisé de long-métrage, on parvient à convaincre à la fois Isabelle Adjani, Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Audrey Fleurot, Géraldine Nakache et j'en oublie, d'embarquer dans l'aventure. Vous aviez une botte secrète ?
Pas du tout. En fait, il y a un truc, c'est que les metteurs en scène manquent cruellement d'imagination. Moi, j'ai encore entendu il y a deux jours, ah non, on ne peut pas proposer ce rôle à Audrey, elle est beaucoup trop expansive. Ah bon, je suis actrice, j'incarne des personnages,
ça, c'est, idiot,
c'est intéressant.
Voilà.
Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai eu envie de créer une comédie lidée par des femmes, parce qu'en 2013, il n'y avait pas de comédie lidée par des femmes. On était la femme d'eux, la copine d'eux, etc. Mais c'était toujours des hommes qui étaient d'abord à la mise en scène, mais aussi les héros principaux des histoires. Donc j'ai envie de dire, ben, vous savez, les filles aussi, on peut faire rire. Donc il y avait déjà une proposition là qui était étonnante, qui était décalée. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir les filles avec qui j'avais envie de travailler et je leur ai dit, quel est le rôle que tu aimerais jouer, que tu sais qu'aucun metteur en scène n'osera jamais te proposer. Et c'est de leur désir et de leur fantasme combiné que j'ai écrit sous les jupes des filles.
C'est extraordinaire. Bon, Audrey Dana, dans Homme au bord de la crise de nerfs, qui est en salle à partir de mercredi, quelles sont à l'écran les jolies surprises que vous n'aviez pas imaginées ? Parce que je parle du métier de réalisateur comme celui qui a justement réponse à toutes les questions et qui ne cesse de tout orchestrer, mais il y a forcément des choses qui échappent, qu'on découvre à l'écran et
alors
qu'on
déjà,
aime.
Je laisse une énorme place à l'improvisation. Donc les acteurs m'ont surprise tous les jours. Je ne dis jamais couper à la fin d'une prise. Les prises continuent. Donc, il se passe des choses incroyables et ces choses se retrouvent souvent dans le film. Donc ça a été une immense surprise. Les cadeaux, tous les jours, faits par les acteurs. Et puis après, on a eu des surprises merveilleuses et surtout, on a eu un ciel clément. Et je veux le dire parce que
oui, il y a du soleil.
Cette nature
incroyable.
Parce cette nature,
le Vercors, ça peut être très, 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 très rude.
Surtout en août,
de la pluie quand il fallait de la pluie, c'est ça qui est quand même.
Non, mais plus que ça, c'est-à-dire que pour des raisons écologiques, j'ai décidé de couper la pluie parce que ça faisait venir des citernes d'eau, ça nous faisait couper du végétal, j'avais pas envie, ça abîmait les terrains sur lesquels on était, etc. Donc j'ai dit, bon, ça, c'est pas viable écologiquement, c'est pas grave, on fera avec ce que le ciel nous donne. Et toute la journée, toute l'arrivée des garçons, il a plu. Mais plus sans s'arrêter.
C'était très bien pour le scénario.
Mais c'était formidable. C'est ce que j'avais écrit, que j'avais coupé vraiment pour des raisons écologiques.
Les dieux étaient avec vous.
Il a fait le ciel. Merci beaucoup. Et puis aussi, une autre chose, c'est que la nuit, je me suis rendu compte en repérage en juillet qu'il faisait glacial. Mais en juillet, à 8h du soir, boum, bam. Zéro degré. Je dis, mais attendez, moi j'ai des tournages de nuit, j'ai des nuits entières en extérieur. Moi, mes acteurs, s'ils ont froid, c'est fini.
Ils ont juste un t-shirt avec des manches courtes, on va pas leur mettre une
nuit. On était à 15 degrés, 15-20 degrés. Les gens de la région ne comprenaient pas ce qui se passait. Hein. C'était fou. Donc ça a été la plus belle surprise. Merci le ciel.
Merci le ciel. Bon, Laurence Tucker, qu'est-ce qu'il est chargé votre agenda ? Parce que, bon alors ça c'est secret, mais voilà, vous êtes en train en ce moment de tourner avec Catherine Deneuve. Mais on vous voit aussi sur Disney+. Dans une série ?
Oui, Houssekine, une série sur l'affaire Malik Houssekine. C'est bien de regarder cette série parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent plus ce qui s'est passé rue Monsieur le Prince une certaine nuit de 1986, réalisé par Antoine Chevrolier, donc, qui avait fait aussi Baron Noir, entre autres, Bureau des légendes, entre autres. Et voilà, donc ça,
quelle
c'est
signature.
Sur Disney+. Et puis L'Avare qui se joue en
c'est
alternance.
C'est ça, avec le bourgeois gentilhomme jusqu'au 24 juillet prochain.
Arpagon, je fais donc L'Avare, je fais le rôle titre, et puis je fais un rôle moindre dans Le Bourgeois Gentilhomme, je fais Coviel et le Moufti, voilà, sur un éléphant, entre autres.
Les mille vies de Laurence Tucker.
Les mille vies de Laurence Tucker.
C'est quand même c'est prodigieux. Bon, qu'a-t-on oublié de se dire ? Ce film, il est épatant, il est en salle, Homme au bord de la crise de
nerfs,
à
belle.
Partir de mercredi. Que la vie est belle !
Oui, bien sûr, il ne faut jamais oublier ça.
C'est important de se le rappeler dans ce monde aux nouvelles si anxiogènes, aux crises sanitaires si flippantes, aux guerres monstrueuses, que la vie est belle et que le ciel est toujours là et le soleil brille toujours, et ça, c'est un miracle.
Merci à tous les deux, à très très vite. Merci.
À bientôt.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.